On se tutoie sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Salut Jean-Luc.
Oh, salut, comment va?
Salut Jean-Luc.
Eh, ça s'est bien passé, tout va bien? Ah, le vendredi soir? Vendredi soir, ça y est, j'adore. J'adore, pourquoi? Parce que... parce qu'il y a des rendez-vous, et là, en regardant l'éphéméride, je m'aperçois qu'il y a maintenant le 15 mars, extraordinaire, une journée internationale du disco. Extraordinaire, le disco, la nostalgie de nos jeunes années. Oh, je nous revois encore, nous, sur le dance floor, devant le miroir, avec la boule à facettes brillant de mille feux, avec pour tout accessoire nos chemises col pelle à tarte et nos pantalons pas de def. Ouais. À l'époque, je le confesse, on se prenait pour John Travolta, rêvant de rencontrer son Olivia Newton-John en se déhanchant dans les booms dans le garage des copains, ou plus tard dans les discothèques appelées vulgairement nightclub, le Misty, le Marina, le Macumba, enfin tout ce qui commençait par un M. Pour célébrer l'événement, qui a invité pour être à la hauteur de ma nostalgie du disco? Michael Jackson? Trop tard. John Travolta? Oh non, non, trop états-unien. Claude François? Mais tu rigoles, beaucoup trop facile. Donna Summer? Ben non, ça marche pas, on est au printemps. Les Bee Gees? Non. Alors j'ai décidé d'appeler quelqu'un de Supernature. Supernature. Quelqu'un qui m'aurait dit je suis musique. Un français, un vrai français qui pourrait m'apporter la banane comme Pierre Péchin quand il présentait Radio Chrysanthème. Recevoir un DJ connu, un vrai, un français, reconnu mondialement. Effectivement. 30 millions d'albums vendus, une espèce de DJ qui aurait pu faire danser l'univers à l'occasion de l'inauguration des Jeux Olympiques de Paris. Bonsoir Marc Cerrone.
Oh, comment tu me l'as amené, dis donc.
Ah bah, wow. J'essaye de bien l'amener, hein.
Super, super. Il y a quelques petites erreurs si, durant l'émission, si je peux te reprendre.
Mais non, mais vas-y, tu peux me reprendre. Oh, tiens. Il vient de descendre. Tu vois déjà, l'erreur, c'est le fauteuil qui vient de descendre.
L'erreur que tu as fait, les discothèques, qui le rappelle la nostalgie. Les nightclubs, bah justement non. La différence, c'est la différence entre les nightclubs et la discothèque, mais je t'en parlerai tout à l'heure.
Non, mais vas-y, n'hésite pas.
Avant, il y avait les nightclubs,
oui,
où les DJ passaient tous les hits qu'on entendait en radio, et c'est ça. Les discothèques, c'était des endroits différents. On voulait surtout pas écouter de la pop.
D'accord.
Donc ça se passait des fois dans des lofts, dans des sous-sols. J'ai même, me souviens, avoir fait ça dans des rooms de métro à New York. Et en fait, c'est le Club 54, le Studio 54, qui a été le premier endroit, qui était un ancien un théâtre qu'ils ont
transformé,
ils ont viré tous
les fauteuils,
et voilà, sauf le balcon où il se passait des choses qui ne sont pas racontables,
d'où l'expression il y a du monde au balcon.
Exactement.
Mais on s'en rappelle très très bien, ça vient de là, ça vient du blues de
exactement.
New York,
exactement.
Oui.
Et ça s'appelait discothèque, c'est-à-dire la différence entre les nightclubs et la discothèque, c'était la pop dance et de la musique vraiment faite pour les gens qui s'en voient en l'air,
c'est
qui existent encore aujourd'hui.
Donc c'est les théâtres qui ont été transformés. Je trouve ça quand même assez magique, quand même.
Absolument.
Ça, c'est quand même assez fantastique. Donc, on se tutoie. C'est le thème, évidemment, de l'émission. Le pape du disco dans le monde entier, on est d'accord. 30 millions d'albums. Moi, quand j'ai vu ça,
là, il y a encore une erreur. 30 millions d'albums physiques.
Physique. Alors,
parce que si on résume...
30 millions d'albums physiques, excuse-moi.
Bah oui,
alors, quelle est la différence entre physique?
Parce que depuis, ça, c'est un chiffre qui est arrêté en 2000, moi. Mm-hmm. Depuis, il y a des streams.
Bah oui.
Eh ben, les streams, c'est pareil, c'est comme des albums, sauf qu'on l'a pas dans les mains, quoi.
Mais ça se quantifie, ça, maintenant, Marc?
Mais c'est colossal, bien sûr.
Donc, alors, c'est quoi? Alors, colossale carrière, qu'est-ce que je peux dire? Si on doit donner des chiffres, c'est quoi?
Un zéro de plus.
D'accord, ok. 850 millions d'albums, Marie.
Ça fait
300
plus,
millions d'albums, alors.
Ça, en stream, oui, mais ça va vite. Rien de Supernature avec les JO, je crois, à passer les 100 millions. Oui, bien sûr, ça va vite.
Ouais.
On gagne pas la même chose, hein. C'est très, très loin.
Ouais, mais ça, c'est pas grave. On n'est pas là pour quantifier,
tout
effectivement, quoi que ce soit. En revanche, je vais rebondir pour nos auditeurs qui viennent de nous happer sur la route de week-end avec Supernature. Là, ça a été un grand, grand bonheur. Grosse révolution l'été dernier. Marc Cerrone, des années 70, 80, revient mondialement avec ça. Vous êtes sur Nostalgie? Bonne soirée à tous. C'est le Marc Cerrone à notre micro ce soir. Eh, ça met un coup ou pas?
Ah ouais.
Non mais parce que on t'appelle, ça se passe comment l'été dernier
Pour les JO?
Ouais.
Je rencontrais Victor Lemaine, qui était le directeur de la musique des JO, qui demande à me rencontrer pour m'expliquer qu'ils vont prendre Give Me Love, un autre de mes titres qui va être inclus dans les dans
Give Me Love.
Tout à fait. Mm. Et puis en parlant, il me dit qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'est quoi tes projets? Et j'étais en train de lui expliquer que dans 15 jours je jouais à Nice dans le grand zénith de Nice qui s'appelle le Nikaya.
Bien sûr.
Où il m'avait demandé de passer mon répertoire avec un orchestre symphonique et l'orchestre symphonique de Cannes.
Ouais.
J'ai accepté. Il me dit oh génial et tout. Il me dit, comment tu fais avec Supernature?
Ouais.
C'est électro. J'ai bah voilà la question.
Ouais.
Je me suis permis de faire des arrangements très. J'adore en Zimmer.
Comment ça arrive au JO?
Attends, je t'explique jusqu'au bout. Et il me dit, tu me fais écouter. Je lui fais écouter. Et là, il a les yeux ronds. Et il me dit, oh putain, j'ai une idée. Je peux pas t'en parler. J'ai une idée. Moi, il est parti. Il m'a demandé une copie. Je suis rentré dans mon stress de Nice.
Ouais.
Le concert qui arrivait.
Le fameux stress niçois, quoi.
Un mois après, il me dit, faut qu'on dîne. Et là, il m'explique, t'as fait lancer la planète. Tu vas faire lancer la Tour Eiffel. Je dis, de quoi tu parles? Il m'a dit, bah, ton Supernature symphonique, il va être à la clôture d'ouverture des JO. Et c'est comme ça que ça s'est passé.
C'est magnifique, la clôture de l'ouverture des JO, tu vois ce que je veux dire? Et c'est d'un seul coup, ça dure au moins 6, 7, 8 minutes, 10
9 minutes 40.
Voilà, 9:40, et le monde entier, là, il y a quand même une émotion. T'es où à cet instant T?
Alors, à ce moment-là, je suis sous la flotte au présidentiel.
Génial.
Le côté live n'a pas pu avoir lieu, donc je suis certain que ça y est, ça a sauté, c'est mort, ça va pas se faire. Et d'un seul coup, j'entends la chorale qu'a rajouté dans ma version symphonique, qu'a rajouté Victor Lemen, la chorale. Et ça a été assez foudroyant. Ouais. C'est l'un de mes qui restera l'un de mes plus beaux souvenirs.
Mais
surtout au niveau de la France.
Ouais, mais alors ça va beaucoup plus loin que ça parce que tu l'as déclaré, mais je trouve que tu es le préféré des 18-35 ans depuis 50 ans, quelque part, puisque moi j'étais hyper jeune, j'avais 18 ans à l'époque.
Il n'y a que moi qui vieillis en fait dans la maison. Mais 18-35.
Ouais, mais ça se voit pas. Parce hier soir, je suis avec mes enfants. Et ah bah oui, je reçois ça. Tiens, demain, je reçois Marc Cerron. Et là, mes enfants s'arrêtent au dîner, hein, d'accord? Comment ça, tu reçois Marc Cerron? Tu reçois Cerron de Super. Et là, ils se sont arrêtés. Mes gamins sont dans la fourchette des 18-35 ans. Et d'un seul coup, à leurs yeux, j'étais quelqu'un de différent.
C'est facile à voir sur les Instagram, sur les réseaux sociaux.
C'est une histoire de dingue.
Tu sais ce qui est dingue aussi,
c'est que ce soit
en France, que ce soit à Londres, que ce soit en Australie, au Mexique, partout, j'ai la chance d'aller. Quand les jeunes me demandent des selfies dans la rue et s'ils sont accompagnés des gens plus âgés que certainement leurs parents, tu vois les parents derrière qui font mais c'est qui?
Non mais je trouve ça dingue. T'as une petite émotion forte quand même.
Ben oui, évidemment quand tu fais des festivals comme hors le JO, quand tu fais des festivals que j'ai fait l'année dernière, les Vieilles Charrues par exemple.
Ouais.
T'as 70 000 personnes, ils ont tous vraiment entre 18 Allez, 40.
Bien sûr.
Et qui reprennent Supernature ou des Give Me Love ou des Je suis musique. Et moi, je baisse le son et je les laisse chanter.
Ouais.
À mon âge, que veux-tu que je te dise de plus?
Non, mais tu les fais pas du tout. Moi, je trouve que c'est génial. Et c'est pas un poisson.
Bah, je le trouve aussi.
Le 1er avril, ce n'est pas un poisson du tout. Tu parlais de festival. Évidemment, je rebondis sur ce que tu dis. Il y a le festival Mythos Cabaret Botanique à Rennes le 12 juillet. T'es à Vitrolles, encore festival. Le 23 juillet au Grande Marais. Donc, je le dis. C'est quand même, je sais pas, c'est à chaque fois un événement. Je te jure, hier soir, quand je dis que je reçois Cerron, mes enfants, ils étaient, mais attends, tu sais qu'il fait de l'électro? Je lui dis, bah non, il fait du disco. Non, c'est de l'électro. Je lui dis, bah oui, en 72, ils ont commencé avec cette période, c'était les Congas, c'était ton tout premier groupe. Ça commence là.
Waouh.
Quoi, waouh. Non mais on va chercher des choses un petit peu qui vont te titiller. Vas-y, remonte
ben non, non, musique. Ça te titille pas, je suis...
Ça te titille.
C'est mon beau, ADN. Ça, c'est de Congas que j'ai découvert ce pied tous les temps avec la charlelle qui est devenu le rythme disco. C'est avec Congas. Je faisais ça pour laisser partir mes deux percussionnistes et partir en solo et mettre un peu le feu dans la salle. Et cette assise-là, c'est là où je l'ai découvert. Et quand je me suis mis à... J'ai tenté une carrière solo avec mon premier album... La Vinci Minor, je me suis rappelé de cette rythmique et j'ai mis cette rythmique. Et puis le reste, tu la connais, ça fait 50 ans, je suis encore en train de t'en parler.
Non, mais c'est exactement ça. Quand je dis que tu es le pape du disco, tu es le papa du disco, tu mets quand même, et tu le dis, la batterie en avant par rapport aux autres. Et comme tu dis, ça donne La Vinci Minor, c'était ça. Oh, et là, pour moi, c'est l'adolescence. Tu révolutionnes le genre avec ça.
Ah, ça a été important, ouais.
Non, mais alors donc, tu pouvais pas le mettre en radio, ça durait 15 minutes.
Bah, ça pouvait pas durer d'être en radio, ça durait 16 minutes 30. Ouais. Ça pouvait pas, avec des râles féminins, passer en radio.
Mm-hmm.
Cette batterie, on me disait, mais qu'est-ce qu'il faut aller mixer d'abord.
Ouais.
Cette batterie, j'avais beau leur dire, mais non. Déjà, c'est long parce que c'est pas fait pour aller en radio.
Ouais.
Donc, les maisons disent, donc ça passe pas en radio, donc ça se vend pas, donc ça veut dire que ça sort pas.
Non, mais c'est la base du disco, là, non?
Ben, c'est la base, oui. C'est un peu la base. Bon, j'étais pas seul, hein. Il y avait George Moroder avec Donna Summer, il y avait Nile Rodgers avec Chic, on était une poignée de mecs, composait et produisait pour les discothèques, ce que je t'expliquais juste avant.
Ouais, exactement. Et puis après, ça donne Seron is Paradise. Moi, j'adore ça. Moi, tu sais ce que l'image que j'ai de ça, c'est mes pochettes d'albums 33 tours. Tu révolutionnes aussi le genre avec des femmes somme toute assez dénudées, somme toute assez alléchantes. Le pot de yaourt qui tombe, c'est pas du tout suggestif. La femme qui est dénudée, c'est pas du tout subjectif. Les gens, ils te disent quoi à l'époque? Ça va pas être possible, parce que nous aujourd'hui, c'est impossible. À part Jay-Z qui veut vraiment qu'on parle de lui avec sa femme. Toi, à l'époque, tu révolutionnes tout quand même.
À l'époque, surtout au niveau de la France. Alors déjà, je suis parti aux États-Unis parce que c'est là-bas que ça a démarré. La maison de disque m'a loué une maison, m'a dit viens avec la famille, tu dois faire de la promo. Donc bref, j'ai quitté la France pendant longtemps. Au niveau de la France, j'étais un peu un mec pas très fréquentable, quoi. Entre mes pochettes de disques scandaleuses, qui pour moi il y avait un sens. Love in C Minor, c'est des femmes qui chantent. J'étais déjà gonflé d'être un batteur et de faire un album en solo, quoi. C'était déjà décalé. C'était un peu Quincy Jones qui m'avait
Producteur Quincy Jones.
Où c'était le premier. Alors qu'il était lui harmoniste, il était pianiste, c'était plus facile que la batterie. Mais il s'était mis en pochette devant, alors que c'était des chanteuses qui l'utilisaient, ce qu'on appelle aujourd'hui des featuring.
Ouais.
Et je me suis dit, pourquoi je n'essaierais pas non plus. Mais
comment tu le rencontres, Quincy Jones?
Oh, tard, je l'ai rencontré dans un concert que je faisais avec Nile Rodgers d'ailleurs, à Montreux au Festival de Jazz. Et juste l'anecdote, juste avant de monter en scène, la lumière s'éteint, la salle est pleine, et je vois un mec à la chaise retournée avec les bras comme ça, black, et je me dis, qu'est-ce qu'il fait ce mec, il est gonflé.
Ouais.
Vous voyez que c'était un pompier ou un mec des services d'ordre, quoi.
Extraordinaire.
Et qui s'asseyait, qui s'est dit, je vais me manger le spectacle.
Ouais.
Je fais mon show, de temps en temps la batterie, je le vois en angle, il est gonflé. Finis mon concert, je termine, je vais saluer, je quitte la scène.
Il est toujours là, le mec.
Nile Rodgers s'ouvre les bras, il m'embrasse, machin, il trépote. Et il me dit, t'as vu le mec là-bas? Je dis, tu le crois pas comment il est gonflé, l'autre là? Il me dit, mais tu sais qui c'est? Et je dis, je sais pas, c'est un pompier.
Non.
Il me dit, viens, je t'amène. C'était Quincy Jones.
Et là, tu es tout
là, voilà, j'étais bouche bée. Et c'est lui qui me dit, mais il y a longtemps, j'ai toujours entendu parler de Seron, je savais pas si c'est un groupe de nanas, un musicien.
Et il voulait se rendre compte et il est venu en Suisse. À Montreux, tu dis ça?
Voilà, et le mot que je lui dis, et alors, il me dit, mais attends, je sais. Et ça, c'était un bon compliment.
C'est rigolo, c'est un peu Jean Gabin, maintenant je sais.
Ah
oh,
ouais.
Je vais te dire. Je sais qu'on ne sait jamais. C'est très émouvant, hein, ce que tu dis quand même. Il y a un titre qui arrive, bande originale d'un film, et on écoute effectivement sur Nostalgie avec une petite respiration. Quand je dis que tu es le pape du disco, tu es un peu le père du disco. Demain, c'est sur Nostalgie, la journée du disco. Tu te rends compte qu'il y a une journée du disco maintenant?
C'est incroyable, hein. Mais tu sais, le terme veut pas dire grand chose parce qu'il est jamais parti. Il a changé de nom. Il s'est appelé house, garage, techno, groove. Mais c'est toujours la musique discothèque, la musique pour bouger. Et aujourd'hui, quand tu vois les jeunes, comment ça bouge dans les festivals, j'ai l'impression de me retrouver au 54 en 77.
Non, mais c'est exactement ça. On se retrouve à l'époque Claude François en train de dire c'est ça le disco
tout à
aussi.
Fait,
c'est
tout
ça.
À fait.
On va parler dans un instant pour l'heure. Une petite respiration musicale qui va faire énormément plaisir au programmateur musical parce que ça fait du bien. C'est bel et bien Marc Seron, le Seron connu mondialement. C'était en 1892 qu'il a commencé le métier. À peu près, hein. Et écoutez
Attends, j'écoute d'abord.
Écoute ça. Give me love. Qu'est-ce que c'est bon. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez sur cette jolie route du week-end, j'adore ce moment parce que journée internationale du disco demain, on est en plein dans l'actualité, avec Marc Seron. Ça te crée une petite émotion d'écouter ce Give Me Love? T'en es où maintenant? Tu es blasé de ça? Tu es...
Pas du tout, tu sais, je fais toujours une trentaine, quarantaine de concerts par an.
Bien sûr.
Donc je joue toujours Give Me Love, ce qui est fantastique dans Give Me Love. D'ailleurs, dès que j'envoie les percussions,
ouais,
j'ai même pas besoin d'envoyer une seule note de basse ou quoi que ce soit. Bah ça bouge, ça réagit.
Ah ouais,
en fait, c'est moi avec mon.
J'adore l'idée. Il a un problème de fauteuil. Ça fait trois fois qu'on change de fauteuil, mais voilà. Ne t'inquiète pas, ça va en ce moment.
Mais c'est fait exprès pour
ton
faire
cardio.
Un peu
ouais, ça fait du cardio.
Un peu d'animation dans le studio.
Mais c'est très très bien. Alors ça donne quand même le titre d'une bande originale de film, Les Brigades Mondaines.
Ouais, Brigades Mondaines, oui.
Ouais, qui te propose de...
Gérard Levillier, avec qui je suis un peu copain, il me propose ouais. de faire les musiques. De films SAS qui sont devenus Brigade Mondaine en fait. SAS était très populaire à l'époque.
Mm-hmm.
Et je dis oui, et sauf que le temps arrive, il tourne, et moi-même me dit, mais alors la musique, tu l'as fait? Waouh, j'étais entre les tournées et ça, et j'ai fait très très vite. L'album de Brigade Mondaine, j'ai dû mettre 3-4 jours pour faire les albums. Quoi.
D'accord.
J'avais pas le temps.
Ouais.
Mais ils ont tous été gold, ils ont tous été, ça a très très bien marché, même mieux que le film.
Non mais oui, ça c'est extraordinaire.
Ah oui, parce que c'est sorti dans le monde et ouais. pas le film quoi.
Ça c'est quand même génial. Non mais ces petits accidents de la vie font qu'à un moment donné, dans les années 70, voire même 79, là pour moi c'est assez émouvant parce qu'on n'est pas loin du début des radios pirates, voire même des radios libres. 79, il y a la banana de Pierre Péchin.
Oh là.
Se casser les dents sur toutes sortes de.
C'est toi ça.
Et pourquoi se fatiguer?
La musique, c'est toi.
J'ai fait ça, moi.
Oui, monsieur. C'était un copain, Pierre Péchin, parce que
c'est
moi,
un...
je me rappelle de Radio Chrysanthème, Pierre Péchin, je me shoote à la salade et ça me rend malade. Moi, j'ai essayé le poireau et ça me rend marteau. Ça, c'était les paroles de Pierre Péchin qui avait une rubrique, même une émission sur Europe 1 les étés. Et toi, c'est toi qui fais cette musique-là.
Certainement, on devait être copains. Il m'avait demandé. Moi, j'aime bien les copains et... J'ai toujours un esprit de groupe, tu sais, j'ai été formé Congas, comme on disait tout à l'heure.
Ouais.
Donc j'ai plutôt un esprit de groupe, j'aime bien les potes. Bah on est assez potes, nous, depuis très longtemps.
Bah attends, bah oui, puisqu'on se tutoie. C'est la base même de la réflexion. Alors après, il y a Call Me Tonight, après il y a Hook on You, il y a Trip in the Moon. Et puis on arrive là, en 2000, à Seron by Sinclair. Il y a quand même un virage à ce moment-là. Du disco, on passe à l'électro, là, ou pas hein?
Alors, c'était là, le sample. Voilà, ce petit bout de sample, là.
Ouais.
Qui est copié-collé, qui fait tout le titre, en fait. Qui ouais. vient d'un de mes titres, qui s'appelle Look for Love.
Mm-hmm.
Et c'est l'un des premiers samples où le mec est venu me voir de manière honnête et de clairer. Parce que j'en avais déjà une ribambelle, mais que je laissais faire, ça me flattait, j'étais pas là-dedans. Mais Bob Sinclair, lui, il m'a demandé la clairance, donc on a clairé, ce qui veut dire on a fait des accords entre nous.
Bien sûr.
Je l'ai invité, j'étais à l'époque, je vivais à Los Angeles, je l'ai invité, j'ai compris le son Seron qu'il voulait faire de mes années 70s.
Mm-hmm.
Je l'ai invité à venir me joindre à Los Angeles dans mon studio avec mes choristes. Je lui ai dit comme ça, t'auras vraiment le vrai son. Il est venu, ça s'est fait, c'était un tube planétaire.
Planétaire?
Et là, la maison de disques, un mec que t'as dû connaître qui s'appelle Pascal Nègre.
Évidemment.
J'étais chez Universal à l'époque, il me dit, allez, on sort un best-of. Je dis, mais attends, on va pas profiter du vent, on va en vendre 12, aucun intérêt.
Tu parles?
Je m'en fous. Et je lui dis, laisse-moi penser à un concept. Et un déjeuner avec Bob Sinclair un jour, un passage de 3 jours où je suis à Paris. Je lui dis, donc, tu pourrais me faire un set, on appelle ça un set, c'est-à-dire une heure de musique
ouais.
devant ton ordi, comme si t'étais dans un club, pas de remix, les originaux, et tu fais comme tu veux, tu me fais une heure de Seron comme si t'étais dans un club.
Génialissime.
Il me dit, ouais, bien sûr, facile. Donc il le fait, on écoute ça avec Pascal. Et
tu l'enregistres?
Il enregistre, il me l'envoie,
ouais.
J'écoute ça, je trouve ça bien, je l'envoie à Pascal, tout le monde trouve ça absolument génial. T'as raison, on a vendu 1,2 million, quoi, je veux dire, ça a été gros. J'avais dit d'ailleurs à Bob Sinclair, c'est tellement bien ce que t'as fait.
Ouais.
Si t'es d'accord, on va l'appeler Seron by Bob Sinclair, puisque c'est toi qui me diffuse. Et depuis, on est toujours très copains.
Mais ça a été très élégant de ta part, ouais.
Et évidemment, ça a déclenché plein de choses, parce que plein de samples m'ont associé à pas mal de hits à l'époque.
Mm-hmm.
Et c'est vrai que ça a un peu réveillé les choses. Quoi.
Non, mais t'as l'électro, t'as le disco, et puis après t'as le disco funk qui arrive, parce que tu t'inspires aussi de la funk.
Ouais, le plus important qui a été pour moi, qui m'a donné un peu un dénominateur, comment faire avec les contrats de rattraper les mecs qui me samplaient, comme les Daft Punk, comme plein de gens.
Mm-hmm.
C'est McCartney, un jour, m'envoie un courrier, Sir McCartney, les papiers gaufrés avec un CD dedans. Et il m'indique que son équipe a pris des a cappella de Wings, un de ses groupes fétiches.
Évidemment.
Sur Good Night Tonight. Et il m'a dit, on l'a posé sur You Are The One, un de tes titres.
Ouais.
Et je sais pas si vous l'avez en réserve.
Non, ouais, non, mais on va le choper, bien évidemment, pour les auditeurs.
Et il me dit, sur le CD, j'écoute ça, magnifique. Et il me dit, si t'es d'accord, on fait 50-50 surtout. Du coup, ça m'a donné un ton. J'ai envoyé ça à mes équipes. J'ai dit, vous rattrapez tous les samples qu'on peut. Enfin, tous ceux qui sont gros. Et on fait 50-50, quoi.
Ouais.
Et ça a roulé tout seul.
Ouais, ça roulait seul, mais à chaque fois tu chopes les opportunités comme elles viennent.
Je chope pas, je les rattrape. Et c'est pas moi qui les crée.
Ouais.
Comme le Bob Sinclair, si deux ou quatre mesures, mais copier-coller t'inspire pour faire une nouvelle mélodie et que ça devient un gros titre. Mmh. Parce que ce qu'on me semble, c'est pas des mélodies, c'est pas des Give Me Love ou des Supernatures, c'est toujours mon jeu de batterie.
Oui, c'est ça.
Très décrié, ça leur coûte cher. Donc, si ça leur coûte aussi cher, c'est que quelque part ça leur amène de l'inspiration. Donc,
mais pourquoi ça a été décrié? Parce que Claude François, qui avait oublié d'être bête, a mis aussi la batterie en avant à un instant.
Mais c'est pas après, de la disco, ça.
Et après, je parlais de batterie, de mettre la musique et cet instrument en avant. Et après, lui, il s'est mis beaucoup plus en avant.
Je vais t'expliquer. Il y a eu le rock avant la disco, d'accord?
Évidemment.
C'est pas parce que dans des titres pop, on a de la guitare distorte et qu'on appelle ça du rock. C'est un état d'esprit. C'est les gens qui connaissent bien ça, ils comprennent ce que je veux dire. La
bien
disco,
sûr.
C'est pareil, c'est un état d'esprit.
Ouais.
Pourquoi les DJ ne se sont pas trompés? Qu'est-ce qu'ils ont été samplés pendant 20-30 ans? Qu'est-ce qu'ils ont été remixés qui fait qu'aujourd'hui c'est incontournable? Ils n'ont pas été prendre un sample à Claude François ou à Dalida ou plein de gens. Donc ça, c'est de la pop qui a été arrangé, ce qu'on appelle à la sauce disco, avec un pied à la sérone tous les temps, avec un peu de corde. Les maisons de disques de l'époque, ils essayaient de rattraper le mouvement qui leur échappait. Mais ça n'était pas simplement français, ça a été dans le monde entier comme ça. Et ça, c'est pas de la disco. D'ailleurs, les Américains ont pris un gros stade fin des années 79.
Ouais.
Et ils ont appelé ça la disco soc. Et ils ont pris tous les titres pop un peu du monde qui étaient connus, qui faisaient un peu d'international, et ils les ont cramés parce qu'ils ont dit ça, c'est pas de la disco.
Et ça fait mal ou pas, franchement?
Ah ben moi j'ai pas été touché, au contraire, ça m'a fait du bien.
Ouais.
Ça m'a séparé de tout ça, justement.
D'accord.
Il y a que la France qui m'a quand même toujours laissé la couronne sur la tête, mais aux États-Unis, en Australie, enfin partout, je te répète, où je vais, c'est vrai, j'ai mon son comme Santana, un son de guitare, comme un autre musicien.
C'est nulle part ailleurs.
En France, j'ai la couronne.
Mais c'est bien quand même qu'il y ait cette reconnaissance depuis des années.
Surtout, la France, nul n'est prophète, je sais ce que ça veut dire. Au niveau de mon pays français.
D'accord.
Donc, j'ai pas été c'est pas la France où j'ai été le mieux servi.
Oui, non, mais aujourd'hui les Jeux Olympiques, je veux rien dire, mais
voilà. C'est ce que je te disais. Les Jeux Olympiques m'ont apporté
une reconnaissance.
Une reconnaissance que je sentais pas avoir avant en France.
Ouais, de toute manière, on l'attend pas, mais quand elle arrive, d'un seul coup, ça saute aux yeux.
Absolument.
Tu parlais de Wings et de Good Night Tonight. C'est une très, très, très belle ouverture parce que sur Nostalgie sur la route du week-end. Avant cette journée internationale du disco, les Wings, moi ça me le fait bien. C'est beau cette petite,
j'adore,
petite guitare là. La basse.
Bien sûr.
Là tu te ressens bien là-dessus?
Ah oui, bien sûr. Toi,
ouais, tu t'y retrouves.
Bien sûr.
Les Wings. Moi j'adore. Et quand tu entends Good Night Tonight comme ça, ça te fait encore un petit peu frémir ou
Oui, bien sûr, mais j'ai les pieds au sol, je me souviens de tout et j'ai beaucoup d'émotions.
Ouais, les émissions, t'en as pas mal.
D'émotions, ouais. Quand je regarde arrière, quand je vois le chemin, ça me fait peur.
Pourquoi ça te fait peur?
Non, parce que c'est pas possible, j'ai fait tout ça, c'est un peu...
Mais c'est vachement bien, mais tu continues?
Oui, je continue, grâce aux jeunes d'ailleurs, c'est grâce aux jeunes et les DJ qui m'ont beaucoup pillé à une époque, mais aujourd'hui ils me l'ont rendu par multiples, parce que sans les DJ, je n'aurais pas cette reconnaissance, j'aurais pas cette longueur de carrière.
Mais au début, ça doit blesser quand même, en disant, mais tiens, mais ça c'est mon son, mais tiens, là...
Alors le premier sample que j'ai eu, c'était en 82, avec un groupe hip-hop. Qui s'appelait Run DMC.
Ah oui, bien sûr.
Et c'était le premier hit hip-hop et il y avait toutes mes drums derrière j'étais tellement certain que le hip-hop ça n'allait pas marcher, quoi, c'était pas possible.
Ouais.
Ça va durer 2 semaines et ça a duré.
Ouais.
Et j'en ai eu beaucoup comme ça qui ont duré.
Ouais.
Et voilà.
Mais c'est blessant, tu te dis zut, il y a
non,
quelque chose.
Ça, non, pas du tout blessant. Quand c'est bien fait, c'est au contraire flatteur. Moi, ça me flattait, c'est pour ça que je laissais faire.
On écoute un petit bout de Run DMC. Et puis là, on arrive quand même dans ces dernières années avec une love box avec monsieur Marc Lavoine que j'ai eu la chance de recevoir. On s'était régalé dans On se tutoie sur Nostalgie. Cette love box, tu mélanges des tubes. C'est une espèce de. On appelle ça un mashup.
C'est mon vrai pote. On se passe des moments assez simples, plus que sympathiques même.
Ouais.
Et en fin de compte, il m'a contacté quoi, il y a 2-3 ans pour me dire, on a déjeuné, pour me dire, écoute, je finis ma tournée, j'ai 120 dates, 120 zéniths, on est au milieu, on va bientôt finir.
Ouais.
Et il me dit, écoute, je finis tous mes spectacles avec Give Me Love. J'ai fait, non. Bah, il me fait, t'es content? J'ai dit, bien oui, j'étais content.
Ouais.
Mais comment tu fais? Il me dit, mais j'ai mon groupe live.
Ouais.
Et puis, je fais un match-up avec des paroles d'un autre titre. Et ben, j'ai fait, c'est super. Bonne idée, bon goût.
Ouais.
Et il me dit, ouais, surtout, c'est que je fais le Palais des Congrès dans 2 mois. Est-ce que tu viendrais pas?
C'est extraordinaire, ça.
On dit rien, c'est un cadeau pour la fin de ma tournée. Je dis, bah, il faut pas me le dire 2 fois, évidemment, je viens.
Ouais.
Donc, je l'ai fait, ça s'est magnifiquement bien passé. Du coup, on est devenus très, très potes.
Mm-hmm.
On se côtoie, on habite pas loin de l'un d'autre. Il vient me voir à mon studio, puis un jour, on s'est mis à bosser, quoi. Comme je fais pas mal avec des collabs, j'en ai plein qui arrivent, là, d'ailleurs.
Mm-hmm.
Et quel genre, là? J'en ai 4.
D'accord.
En France, Christine and the Queen, ça sort en avril.
Chris, d'accord.
Ouais. Laylo.
Pas mal.
180 degrés.
D'accord. Grand écart facial.
Grand écart. Et on s'est bien éclaté. J'ai des trucs anglais, Jamie Hicks, tu connais tout ça.
Mm-hmm.
Si tu veux, je vais te sortir la liste. Il y en a beaucoup.
C'est vachement bien.
C'est vachement bien.
Et donc, ça se termine, puisque, excuse-moi, je t'ai coupé
la
parole
avec
Marc Lavoine.
Bah, avec Marc Lavoine, on fait un titre et tout, puis on l'envoie à nos maisons de disques respectives. Puis les gens qui nous entourent, tout le monde dit, mais c'est vachement bien, il faut le sortir.
Mm-hmm.
Les deux marques et tout. Et puis, on s'est laissé faire et on est ravis. Lovebox, c'est lui qui a trouvé le titre d'ailleurs.
D'accord. La marque compagnie, ça donne ça, j'adore.
Toi, mon amour.
Extraordinaire.
Toi qui as le cœur lourd, mon amour.
Étonnant, cette sensualité de la guitare, la sensualité de l'interprétation des cordes vocales de Marc Lavoine.
Tout à fait.
Ça donne quelque chose d'assez étonnant. Ça a dû être génial au Palais des Congrès, non?
C'était fou. C'était
ouais.
La salle, la moitié de la salle, d'un coup, est descendue devant.
Extraordinaire.
Ouais.
D'accord. Mais c'est quand même le génie de Marc, ce génie instantané qui d'un seul coup a une idée. Allez, on y va, on part ensemble, on se raconte des histoires.
Bien sûr.
Et cette histoire, elle est vraiment très très belle.
On se tutoie sur Nostalgie.
Avec Jean-Luc Reichmann. Tous les vendredis soirs, 19h-20h. Et à tout moment en podcast sur l'appli Nostalgie.